Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition du 15 juillet 2020. Nathalie Barge à la présentation, voici les titres. Au Mali, une attaque contre deux villages a fait 7 morts à Sanga dans la région de Mopti. Au Bénin, l'autorité de régulation des médias ordonne la fermeture des sites d'information en ligne. Réouverture des frontières aériennes au Sénégal après 4 mois de fermeture due au coronavirus. 10 000 militants du RHDP se sont rassemblés à Abidjan pour un dernier hommage au Premier ministre décédé Amadou Gon Coulibaly. Covid-19, dans la course pour la recherche d'un vaccin, une firme américaine lance la phase finale de ses essais cliniques. Juste après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. Au Mali, 7 civils ont été tués dans une attaque à Sanga dans la région de Mopti. Des rescapés de 2 villages ont pu se réfugier à Bandiagara avant l'arrivée de l'armée malienne. Les détails avec notre correspondant Kassim Traoré.
Hier, sous un soleil immaculé, quand des paysans faisaient la navette entre leurs habitats et leurs champs, vers 10 heures, un groupe d'assaillants non identifiés, ayant retrouvé refuge dans la forêt de Bundu, a attaqué le village de Moniboro et Inetemu, dans la commune de Sanga, cercle de Banyangara, région de Mopti. Selon le maire de Sanga, Ali Dolo, les malfaiteurs sont venus à bord de plusieurs motos et ont visé des jeunes qui faisaient paître des troupeaux aux alentours d'un village. Les villageois sans défense n'ont pu opposer aucune résistance face à leurs agresseurs. Le maire ajoute que les assaillants se sont mis à tirer sur toutes les personnes qu'ils ont trouvé dans les champs. Ainsi, les paysans qui ont pu échapper à l'expédition punitive ont fui dans les brousses, laissant leurs agresseurs dans les champs et dans leurs villages. Malheureusement, au cours de la fusillade qui a duré 2 heures selon les populations, 7 paysans ont trouvé la mort, dont 4 ressortissants de Moniboro et 3 de Intenemu. Dans un élan de pillage et de vol, les malfaiteurs ont apporté des bœufs de labour et plusieurs petits ruminants. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le Mali reçoit ce mercredi une mission conduite par l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan pour tenter de rapprocher le pouvoir et le mouvement de contestation à l'approche d'un nouveau rassemblement à haut risque vendredi. Les leaders de la contestation exigent toujours la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Les affrontements le week-end dernier ont fait 11 morts et 158 blessés selon le gouvernement. Le Sénégal a rouvert ses frontières aériennes après 4 mois de fermeture à cause du coronavirus avec l'arrivée à l'aéroport de Dakar à minuit d'un vol d'Air Algérie et Kiabadou.
6 vols internationaux au départ et à l'arrivée sont prévus ce mercredi d'après le ministère des Transports aériens. Cette reprise est accompagnée d'un protocole sanitaire imposant des obligations strictes aux compagnies aériennes. Tout passager se rendant au Sénégal doit présenter l'original d'un certificat de test négatif au Covid-19 datant de moins de 7 jours et délivré par un laboratoire agréé par l'État où il a commencé son voyage. Des vols commerciaux pour rapatriement avaient continué par intermittence depuis la fermeture totale des frontières aériennes le 20 mars. Par contre, les frontières terrestres et maritimes sont toujours fermées. Le Sénégal a levé fin juin le couvre-feu et l'état d'urgence instauré en mars. Les restrictions ont provoqué des heurts et manifestations dans plusieurs villes. Depuis le 2 mars, le pays a déclaré plus de 8300 cas de contamination et 153 décès.
10 000 militants du parti du Premier ministre décédé Amadou Gon Coulibaly se sont rassemblés ce mercredi au Palais des Sports d'Abidjan pour lui rendre hommage. Le président Alassane Ouattara s'est exprimé publiquement pour la première fois depuis la mort le 8 juillet du candidat du pouvoir à la présidence d'octobre. Le corps de M. Gon Coulibaly devait être transporté dans l'après-midi à Korogo, où il sera inhumé vendredi. Au Bénin, les sites d'information en ligne sont sommés de fermer par l'institution de régulation des médias. Le point avec John Lyndon.
La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication exige des médias en ligne de mettre fin à toute publication sous peine de se voir appliquer la rigueur de la loi. L'institution de régulation dit constater la création tout azimut des médias en ligne sans autorisation préalable, mais elle reste floue sur les contours de cette interdiction. Il y a des gens qui ne répondent pas aux enquêtes de moralité, s'est défendu un porte-parole de la HAC, ajoutant que cela constitue un danger pour le pays. Plusieurs journalistes et blogueurs ont déjà été poursuivis depuis l'adoption en avril 2018 d'une loi criminalisant les délits de presse en ligne et notamment le partage de fausses informations sur les réseaux sociaux. Le regroupement des promoteurs et professionnels des médias digitaux dénonce une sorte de restriction de la liberté d'expression. En 2019, le Bénin se trouvait au 113e rang dans le dernier classement de Reporters sans frontières, reculant de 17 places.
La présidence congolaise a annoncé la démission du président de la Cour constitutionnelle, Benoît Luamba, et sous sanction américaine depuis février 2019 pour corruption et entrave à la démocratie. Il avait été investi président de la Cour en avril 2015 par l'ex-président Joseph Kabila. Son mandat devait expirer en avril 2021. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a ordonné à la Tanzanie de modifier l'article de sa Constitution qui interdit de contester devant les tribunaux l'élection d'un président une fois sa victoire annoncée par la commission électorale. La Cour a demandé au gouvernement tanzanien de prendre les mesures constitutionnelles et législatives nécessaires d'ici une échéance raisonnable pour modifier l'article concerné. Les États-Unis ont accusé un groupe russe de mercenaires d'avoir posé des mines dans la région de Tripoli en violation d'un embargo sur les armes pour la Libye. Des preuves photographiques vérifiées montrent des pièges et des champs de mines placés en périphérie de Tripoli jusqu'à Sirte depuis mi-juin, affirme le commandement américain pour l'Afrique, accusant le groupe russe Wagner d'avoir posé ses engins explosifs. La justice algérienne a prononcé de lourdes peines à l'encontre d'ex-ministre et de l'homme d'affaires Mayedine Takout lors d'un nouveau procès pour corruption. Le patron de l'automobile a été condamné à 16 ans de prison ferme pour blanchiment d'argent avec ses deux frères et son fils, condamné à 7 ans de prison ferme. Les deux ex-premiers ministres Ahmed Ouya et Abdelmalek Sellal ont été condamnés à 10 ans de prison ferme. Le chef du gouvernement tunisien Elias Fakhfa, choisi en février pour diriger un gouvernement de coalition, a présenté sa démission après un bras de fer avec Ennahda, le parti d'inspiration islamiste qui compte 5 ministres au gouvernement, voulait engager une motion de défiance mettant en avant les soupçons de corruption pesant sur le premier ministre. Un chauffeur de bus scolaire italien d'origine sénégalaise qui avait retenu des élèves pour protesté contre le sort des migrants, a été condamné à 24 ans de prison pour séquestration avec objectif terroriste. En mars 2019, Hussein Houssi avait dérouté son bus vers l'aéroport de Milan avec 51 collégiens à bord qu'il avait déclaré vouloir utiliser comme bouclier pour partir en avion.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le coronavirus continue de se propager dans le monde, contraignant plusieurs pays à des reconfinements partiels. L'espoir d'un futur vaccin se renforce aux États-Unis, où une firme va lancer la phase finale de ses essais cliniques. Nani Talani.
En Espagne, plusieurs communes en Catalogne ont été reconfinées. C'est pareil au Portugal, où le gouvernement prolonge jusqu'à la fin de juillet le reconfinement partiel autour de Lisbonne. L'Inde va reconfiner dès demain près de 140 millions de personnes dans la région de Bangalore. À Hong Kong, les bars, les salles de sport et les salons de coiffure ont refermé ce mercredi. Le Brésil a enregistré 1300 morts supplémentaires en 24 heures. Aux États-Unis, quelque 63262 nouvelles infections sont apparues depuis lundi. La firme américaine de biotech Moderna a annoncé hier qu'elle s'apprêtait à lancer la phase finale de ses essais cliniques pour un vaccin. 45 volontaires prennent part à la phase 1 de ces tests. Le ministère russe de la Défense affirme aussi avoir développé un vaccin après des essais cliniques sur 18 volontaires et pour le moment, il n'y a pas eu de complications majeures ni d'effets secondaires.
Le géant de la distribution Walmart a décidé de rendre le port du masque obligatoire dans tous ses magasins aux États-Unis à partir de lundi, prenant ainsi une position ferme sur un sujet particulièrement controversé dans le pays. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Ekiabadou.
Les actionnaires d'Ecobank Côte d'Ivoire, filiale du groupe bancaire panafricain du même nom, percevront le 20 juillet 2020, au titre de l'exercice 2019, un dividende net global de 19,432 milliards de francs CFA, ont annoncé les dirigeants de cette banque basée à Abidjan. Rapporté aux 55 millions d'actions qui composent le capital social, cela représente un dividende net par action de 353 francs CFA, ce qui représente 70,6% de sa valeur nominale. Le développeur énergétique panafricain AEE Power a remporté, au terme d'un appel d'offres, le projet d'extension du réseau électrique de Lomé au Togo. D'un coût de 34 millions d'euros, les travaux s'inscrivent dans le cadre du projet PEREL soutenu par l'AFD et l'Union européenne. À terme, cela va permettre l'installation de lignes de basse et moyenne tension et le raccordement de nouveaux abonnés. En Afrique du Sud, l'inflation est tombée à son plus bas niveau en 15 ans avec un taux annuel de 2,1% en mai, a annoncé mercredi le Bureau national des statistiques. Les prix à la pompe ont chuté de 25% sur un an. En revanche, ceux de la viande et des produits laitiers ont augmenté de respectivement 5,5% et 7,1% sur la même période.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Le match d'ouverture de la Coupe du Monde 2022 aura lieu au Al Bayt Stadium d'Alcor City au Qatar. L'annonce a été faite par la FIFA dans un communiqué présentant le calendrier. Ce stade de 60 000 places accueillera le lundi 21 novembre le premier des 64 matchs de la première Coupe du Monde de l'histoire à se disputer en novembre-décembre. Le programme officiel de la compétition comprend un calendrier plus resserré jusqu'à la finale programmée le 18 décembre, jour de la fête nationale au Qatar, devant 80 000 personnes au Lusail Stadium. Le tableau final sera connu en mars 2022, une fois les phases de qualification terminées. 5 pays africains seront au Mondial 2022. En Angleterre, les clubs de Premier League ont convenu que le mercato estival s'ouvrira le 27 juillet pour se terminer le 5 octobre. La Premier League a déclaré qu'après consultation avec l'English Football League, le championnat de deuxième division, une période réservée aux transferts nationaux, sera aussi ajoutée à partir du 5 octobre et se refermera le 16 octobre. Les transactions entre les clubs de Premier League ne pourront pas avoir lieu pendant cette période, mais les transferts et les prêts entre les clubs de première et deuxième division seront autorisés. Au Portugal, le président du Benfica Lisbonne, Luis Felipe Vieira, la société qui gère le club et celle qui détient son stade ont été mises en examen par la justice portugaise pour fraude fiscale. Le parquet général a confirmé l'existence d'une enquête portant sur des faits susceptibles de constituer un délit de fraude fiscale, selon une information dévoilée par le quotidien sportif Abola et confirmée ensuite par plusieurs médias portugais. L'affaire porterait sur des paiements d'un montant de 1,8 million d'euros versés en 2018 à un prestataire informatique pour des services qui n'auraient jamais été rendus. Ici aux États-Unis, le meilleur marqueur de la NBA, James Harden, est arrivé la nuit dernière à Orlando pour rejoindre les Houston Rockets en vue de reprendre la saison le 30 juillet. La star de Houston est arrivée au Disney World d'Orlando en Floride 5 jours après son équipe des Rockets. Aucune raison n'a été donnée concernant l'arrivée tardive de Harden, mais il doit se mettre en quarantaine avant de pouvoir rejoindre l'équipe pour s'entraîner. Avant l'interruption de la saison le 11 mars, Harden affichait une moyenne de 34,4 points par match et fonçait vers un troisième titre consécutif de meilleur marqueur de la Ligue. Russell Westbrook, avec lequel il forme l'un des duos les plus redoutés de la NBA, manque à l'appel car ayant été testé positif au Covid-19, comme il a annoncé lui-même lundi sur les réseaux sociaux.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. Nouveau gouvernement au Tchad avec 19 départs et 15 entrées, dont 9 femmes. Les citoyens ont des avis partagés sur cette nouvelle équipe à quelques mois de l'élection présidentielle. Le point avec André Koudmadjingar, correspondant de VOA Afrique à N'Djamena.
La nouvelle équipe passe de 31 à 35 membres, dont 29 ministres et 6 secrétaires d'État. Pour la première fois, 9 femmes entrent dans le gouvernement du maréchal Idriss Déby Itno au pouvoir depuis 30 ans. Pour la gente féminine, c'est une avancée. Banata Tchalesseou est la secrétaire générale du Conseil national des femmes du Tchad.
Un gouvernement avec 9 femmes, d'habitude on a 8-8, mais là on a une femme de plus, c'est une petite avancée. Et on demande à ce que qu'on fasse encore beaucoup plus d'efforts, parce que les jeunes féministes, c'est une population laborieuse. Non, on ne peut pas parler encore de victoire. Parce que quand tu dis victoire, c'est quand tu es satisfait à 100%. Et les femmes vont toujours rester vigilantes par rapport à ça. Que ça soit secrétaire d'État, que ça soit ministre. Il n'y a pas de demi-ministre, quoi.
L'ancien chercheur Ahmad Mohamed Hassan estime pour sa part que les équilibres en ce qui concerne la géopolitique sont maintenus.
Pratiquement toutes les provinces sont présentes dans ce gouvernement. Cela marque le caractère représentatif ethnique, tribal et provincial. Provincial et régional du gouvernement, et les gens se sentent associés à la gestion de la chose publique, donc ça reflète le caractère national du pouvoir en place. Ce dernier gouvernement, compte tenu du dernier chronogramme de la CENI, peut aussi être interprété comme une lecture préparative des prochaines élections présidentielles, pourquoi pas, qui est l'enjeu principal. La représentation politique régionale coïncide avec l'opportunisme électoraliste.
Pour le politologue Dr. Evariste Garlam-Toldé, 19 départs, c'est trop. Certains citoyens estiment que ce remaniement ne changera pas grand-chose dans leur quotidien et donc un non-événement.
On a crié que les femmes ne sont pas représentées ainsi de suite, de présent à écouter, il a cherché à corriger. C'est juste pour respecter les lois. Mais dans la gestion réelle, est-ce que les gens ont les mains libres? Et ils sont là pour combien de temps?
En tant qu'un jeune, je suis ravi de voir l'entrée des jeunes parce que depuis longtemps, le gouvernement ne tient pas compte de la jeunesse. Donc particulièrement, je remercie notre président de la République, le Marcher Idriss Déby Itno, de penser à la jeunesse.
Je trouve cela insignifiant pour deux jeunes dans le gouvernement. 5 au minimum, je pourrais comprendre. Mais 2, c'est insignifiant.
Oui, 19 départs, c'est bon, mais les gens qu'on les a ramenés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Même si on dégage tout le monde dans ce gouvernement et qu'on ramène de nouvelles têtes, ceux-là auront face au président maréchal qui est incontournable. C'est lui qui dicte tout et ils ne peuvent rien sans lui. Les gens viennent pour servir un homme. Donc, moi, qui me concerne, ça ne me dit rien. C'est comme un non-événement.
Le départ remarquable est celui de Nouradine Deloua Kassiré Koumakoye, considéré comme le père de la 4e République. Le secrétaire général de la présidence, Kalzebe Paimi Debe, a fait maintenant une posture du premier ministre. André Koudmadjingar N'Djamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Au Sénégal, le ministre des Forces armées Sidiki Kaba et le chef de l'armée, le général Biram Diop, ont lancé mardi les travaux de construction d'un nouveau camp militaire à Goudiri, près de la frontière avec le Mali. Cette garnison devra notamment faire face aux menaces transfrontalières. Eric Manirakiza a joint à Dakar l'analyste politique Ibrahima Kane.
Oui, je pense même que la construction de ce camp est vraiment tardive, dans la mesure où cela fait quand même plusieurs années que le conflit au Mali perdure et que le Mali est un voisin important du Sénégal et que le Sénégal doit vraiment se préparer à toute éventualité parce que ce qui se passe actuellement au Mali est quand même très difficile à accepter. C'est un pays qui est pratiquement sur le point de s'écrouler. C'était d'abord le nord qui était occupé. La crise a atteint maintenant le centre du Mali. La deuxième ville du Mali, qui est à 200 km de Bamako, est aujourd'hui presque à portée de main des groupes djihadistes. Il y a 2 mois, une attaque, je pense, à partir de la Mauritanie, d'une ville qui est proche de Kayes, et Kayes n'est pas très loin du... C'est la première grande ville au Mali quand tu quittes le Sénégal. Donc, le Sénégal a toutes les raisons de bien se préparer, d'assurer un maillage complet de son territoire avec les forces de sécurité pour vraiment faire face à toute éventualité, parce que la situation du Mali l'explique.
Mais c'est aussi une zone au service du banditisme et de nombreux trafics.
Oui, mais pas un banditisme de nature à forcer le gouvernement à mettre en place un camp militaire d'importance. Vous savez que ici au Sénégal, le milieu rural est le domaine privilégié de la gendarmerie. On a l'une des forces de gendarmerie les meilleures d'Afrique qui non seulement est très bien équipée, mais aussi très professionnelle et qui vraiment arrive à bien contrôler l'essentiel du territoire. Bon, bien sûr, ça et là, il y a le banditisme qui se développe, surtout de banditisme lié au vol de bétail, banditisme lié aussi à Casamance, un peu à ce qui reste du mouvement des forces démocratiques de la Casamance, où se sont transformés maintenant en des bandits pour faire le commerce du bois et autres. Bien, de façon générale, le camp qui est actuellement en vue, c'est un camp qui est vraiment chargé pour assurer une sécurité du territoire sénégalais en cas de crise venant de la partie est du pays.
Faut-il envisager d'autres camps militaires sur d'autres frontières?
Je pense que le Sénégal se prépare, parce que ce qu'on a pu observer ces derniers temps, depuis 3 ou 4 ans, c'est que chaque année, l'État recrute au moins 1000 à 2000 personnes dans les services de sécurité.
L'analyste politique Ibrahima Kan était joint à Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h/24.
La commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi a appelé le nouveau gouvernement de Bujumbura à coopérer avec les Nations Unies. Créée en 2016, elle demande aux autorités de faire cesser les violences et de démontrer leur volonté de changement. Abdourahmane Dia a joint Doudou Diène, qui est le directeur de cette commission d'enquête onusienne.
De très nombreuses années que la question du Burundi est sur l'agenda international, au Conseil de sécurité, au Conseil des droits de l'homme. Et il se trouve tout simplement que les violations des droits de l'homme continuent, mais il y a un événement majeur qui vient de se passer, regrettable, triste, le décès du président Nkurunziza et son remplacement par un nouveau président. Et donc, ce que nous, à la commission d'enquête indépendante de l'ONU sur les droits de l'homme, sur le Burundi, nous pensons que c'est un tournant historique, et donc l'occasion d'un changement de fond sur la question des droits de l'homme et le respect de la démocratie.
D'accord. Et le président Évariste Ndayishimiye a tout de même réitéré sa volonté de poursuivre la politique de son prédécesseur, avec qui d'ailleurs il a longtemps cheminé.
Il a en même temps exprimé en termes certainement un peu mitigés son souhait en tout cas de respecter les droits de l'homme, etc. Et donc il y a des frémissements en ce qui concerne ses intentions. Mais en tout état de cause, pour nous, commission d'enquête, et je crois généralement pour la communauté internationale, ce tournant historique doit nous amener à dire au nouveau pouvoir, vous avez l'occasion donc de faire des changements de fond et durables sur la question du respect de la démocratie et des droits de l'homme. La scène politique burundaise est complexe, et que vous savez très bien que le président élu n'était pas le candidat du président, de l'ancien président. Vous le savez très bien également. C'est une donnée factuelle. Nous, notre mandat n'est pas politique, mais nous tenons compte de toutes ces nuances, de toutes ces complexités. En tout état de cause, notre position est simple. Notre mandat, c'est droit de l'homme. Il y a un changement politique à la tête de l'État. Nous disons que c'est un moment de transformation qualitative du respect des droits de l'homme et de la démocratie. Et nous appelons la communauté internationale à être vigilante pour voir s'il y a des changements de fond. Non.
Alors, justement, vous demandez à cette communauté internationale d'être vigilante, mais comment est-ce qu'elle doit s'y prendre pour éviter que la population ne continue de souffrir un peu des sanctions, par exemple?
La communauté internationale, parce qu'il faut quand même rappeler que le Burundi n'est pas arrivé sur l'agenda du Conseil des droits de l'homme ou du Conseil de sécurité comme cela pour essayer d'accuser les Burundais ou les autorités burundaises, mais pour dire que le mandat du Conseil des droits de l'homme et du Conseil de sécurité, c'est la paix, le respect des droits de l'homme et, en dernière analyse, le droit de la population burundaise à la paix, à la justice, à la prospérité et à la liberté.
Doudou Dien, qui dirige la commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi, était joint à Paris.
Abdourahman Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, les appels au calme et au dialogue se multiplient au Mali après les violences meurtrières du week-end. La troisième manifestation organisée par le mouvement du 5 juin contre le pouvoir a dégénéré, faisant au moins 11 morts et plus de 100 blessés. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé la dissolution de la Cour constitutionnelle, mais ses adversaires lui demandent d'aller plus loin en organisant des élections législatives partielles. Quelle solution à la crise politique au Mali? Nous discuterons de cela avec nos invités ce jeudi 5 juillet 2020 à 19h temps universel sur VOA Afrique et VOA Afrique.
Le gouvernement américain a renoncé à priver de visa les étudiants étrangers dont les cours resteraient entièrement virtuels à la rentrée pour cause de pandémie de Covid-19. Plusieurs universités contestaient cette décision. Claire Morin-Gibourg a joint le professeur d'études africaines à l'université Stony Brook, Patrice Nganang.
Bon, c'est un soulagement, il faut le dire. C'est vrai, au niveau professionnel, il y a quand même un certain nombre de choses qui sont encore ouvertes, c'est-à-dire, par exemple, comment est-ce que les cours auront lieu. Nous sommes encore dans le gris et puis la pandémie évolue. On aurait souhaité que celle-ci ait déjà fini, du moins qu'elle soit maîtrisée, comme cela a été le cas en Asie, comme cela a été le cas en Europe. Mais il se passe que les États-Unis se retrouvent dans la zone absolument rouge. Et voilà, New York, y demeure d'ailleurs. Donc, cette décision, du moins, c'est un chapitre qui n'enlève pas d'autres qui concernent le recommencement des cours. Est-ce que nous allons demeurer dans la période grise, qui veut dire que certains cours seront online, d'autres cours seront faits face à face? Et pour les cours qui sont faits face à face, est-ce que les enseignants qui sont au-dessus de 50 ans vont du moins subir l'indignité d'aller enseigner en mettant leur propre vie en danger? Est-ce que tous les cours seront finalement online? Bon, on s'est dit qu'avec l'été, ces décisions-là seront prises et puis seront prises de manière responsable. Et donc, ça fait qu'on n'utilisera pas, n'est-ce pas, les étudiants étrangers comme étant un levier pour obliger les enseignants à être dans les classes, parce que si c'est ce à quoi ça sert, finalement, ça serait très malheureux.
C'était ça votre plus grande inquiétude, en fait, d'être forcé de donner des cours en présentiel pour que ces étudiants étrangers ne soient pas renvoyés dans leur pays?
En fait, il faut dire que les débats universitaires ont plusieurs chapitres qui sont sur la table, c'est-à-dire que les gens ont des choix. C'est ce que j'appelle zone grise, qui veut que les gens choisissent soit d'enseigner online, soit d'enseigner face à face. Et pour ceux qui enseignent online, il faut un avis universitaire qui présente du moins l'obligation à enseigner online, qui est lié à la santé. Par exemple, si on est âgé de plus de 50 ans, de plus de 60 ans, ça veut dire qu'on est en danger. Si on a dans sa maison des gens qui ont des âges plus ou moins élevés, c'est qu'on les met en danger, il faut le formuler verbalement. Bon, des choses comme ça. Ça veut dire qu'avec l'obligation des étudiants à être sur le campus, ce genre de discussions qui sont en train d'avoir lieu en été devient plus ou moins difficile à gérer. Donc, le fait que les étudiants n'aient pas l'obligation à être sur le campus rend plus ou moins la discussion beaucoup plus simple, beaucoup plus humaine pour toutes les parties. Hein. Je crois que c'est la meilleure chose qui puisse arriver.
C'était le professeur Patrice Nganang, professeur d'études africaines à l'Université d'État de Stony Brook à New York. C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de la production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission sur voaafrique.com. Très bonne soirée à toutes et à tous.